Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition consacrée au Yémen. Yémen, quand la guerre finira-t-elle? La question se pose alors que la crise yéménite, qui est devenue un conflit régional, a beaucoup de difficultés à trouver un règlement. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, est en tournée au Moyen-Orient afin de rassurer sur l'implication des États-Unis en Syrie, après l'annonce surprise d'un retrait de leurs troupes de ce pays. Autre sujet de cette tournée, le Yémen. L'administration Trump est sous la pression du Sénat américain qui a voté en décembre une résolution pour que Washington cesse de soutenir militairement la coalition menée par l'Arabie Saoudite contre les rebelles houthis appuyés par l'Iran. Le conflit au Yémen est entré dans sa cinquième année. En décembre dernier, le gouvernement et les rebelles houthistes ont conclu à Stockholm un accord de sortie de conflit en attendant de véritables négociations de paix. Regard sur les forces en présence et les conditions pour que la paix soit possible avec nos invités François Frison-Roche, chercheur au CNRS et ancien directeur du projet Aide à la transition démocratique au Yémen au sein de l'ambassade de France. Bonjour.
Bonjour.
Et Guillaume Binet, photoreporter et cofondateur de l'agence de photographes Myop. Bonjour.
Bonjour.
Il y a un mois, se tenaient en Suède les premiers pourparlers inter-yéménites depuis 2016. Ils ont fixé un accord de sortie de conflit appuyé par une résolution de l'ONU. En ce début de 2019, il est maintenant question de donner une suite au pourparlers de décembre afin de fixer un cadre de négociation devant mener à terme à la mise en place d'un gouvernement de transition, à des élections, à une nouvelle constitution. Ça, c'est pour le cap. Au moment où l'ONU demande aux belligérants des progrès réels pour parvenir à la paix, une attaque spectaculaire s'est produite jeudi dernier. Attaque de drones lancée par les Houthis contre l'armée loyaliste dans le sud du pays. Autant dire que l'accord de cessez-le-feu du 18 décembre est pour le moins secoué, ce n'est pas un jeu de mots. François Frison-Roche, est-ce qu'on assiste à une montée en pression avant de futures négociations?
Oui, évidemment qu'il y a de la part des deux bords des manifestations belliqueuses pour montrer que ils n'ont rien perdu de leur agressivité, parce que bon, il y a toujours du côté saoudien des bombardements du Yémen, et évidemment les Houthis montrent par cet acte qui est avant tout très visuel, bien les Houthis montrent qu'ils ne sont pas disposés à se laisser faire.
Alors, pour poursuivre sur cette question des négociations, François Frison-Roche, comment vous jugez-vous l'accord de Stockholm de décembre dernier?
C'est le début du commencement d'une première étape. L'urgence humanitaire étant celle qu'elle est, je rappelle quand même 18 millions de personnes qui sont en état de pré-famine, il fallait absolument débloquer ce nœud essentiel de l'ouverture du port d'Hodeïda pour que l'aide humanitaire et médicale puisse arriver au Yémen. C'est loin d'être fait, manifestement. Mais c'est une première étape. Ensuite, il va falloir que les voies de communication soient dégagées. Parce que transporter de la nourriture et de l'aide médicale pour 18 millions de personnes, ce sont des convois considérables, de gros camions, pour pouvoir transporter cette nourriture et ces médicaments dans la région la plus peuplée du Yémen, donc la région nord, sous contrôle houthi. Et il faut dire que quasiment maintenant depuis 4 ans, les voies de communication ont été bombardées. Donc ça va être très difficile d'acheminer cette nourriture. Donc vous voyez que les accords qui concernent Hodeïda, c'est vraiment le début du commencement d'une première étape. Ensuite, il va y avoir stabiliser cette zone pour que véritablement les navires puissent débarquer cette aide humanitaire. Ensuite, il va falloir permettre aux convois de pouvoir s'acheminer là où la nourriture est nécessaire et sécurisée. Car s'il y a évidemment du côté de la coalition de l'Arabie Saoudite et des Émirats des velléités de vouloir montrer qu'ils continuent d'une certaine manière le combat, les Houthis de leur côté, eh bien, continueront aussi leur petit jeu asymétrique. Ils empêcheront les convois de passer, ou bien ils feront cette manifestation très visuelle du dernier attentat avec ce drone qui va frapper les foules, peut-être évidemment à l'extérieur, mais surtout sur le terrain. Les Houthis montrent qu'ils sont quand même encore capables de faire un certain nombre de choses, notamment envoyer et faire exploser un drone au-dessus d'une parade militaire.
Alors, Guillaume Binet, je me tourne vers vous. Alors, juste, on peut préciser, pour nos auditeurs qui n'ont pas forcément une carte du Yémen devant eux, que le port d'Hodeïda se situe sur la mer Rouge. Vous étiez, Guillaume Binet, en décembre dernier, mais c'était pas la première fois, au Yémen, c'est-à-dire finalement au moment des accords de Stockholm. Qu'est-ce que vous avez vu? Quel pays avez-vous trouvé sous vos yeux?
Je voudrais attirer l'attention sur le fait que ce pays est en guerre depuis 4 ans et que la guerre, ça laisse des traces, beaucoup de traces. Ça laisse des terrains minés, ça laisse des engins non explosés, des sous-munitions et surtout un paysage qui est complètement à l'abandon. Donc quand on parle de famine et d'aide humanitaire, il y a aussi un aspect agricole. C'est-à-dire que les terres ont été abandonnées, le désert a regagné des zones qui étaient cultivées, qui étaient vertes et qui aujourd'hui sont complètement désertiques. Donc le terrain que j'ai trouvé au niveau de cette bande nord-sud, ligne de front, Hodeïda, Moka, Taez, c'est un terrain abandonné, miné, fui par ces populations rurales. Donc on a les zones urbaines qui grandissent, qui font face à beaucoup de déplacés. J'insiste sur le terme de déplacés parce que c'est une guerre qui est fratricide. On oublie un peu parce qu'on parle beaucoup d'Émiratis, mais à la base, on est sur un peuple qui finalement se combat lui-même. On a voulu en faire quelque chose de confessionnel qui, à la base, n'était pas spécialement confessionnel. Donc on trouve un pays qui finalement est extrêmement contrasté avec toute une ingérence internationale qu'on retrouve pas sur le terrain. Sur le terrain, on trouve des enfants amputés qui sont pris en charge par des hôpitaux tels que ceux de Médecins Sans Frontières, mais pas des hôpitaux... Enfin, il n'y a pas d'hôpital réellement fonctionnel yéménite. On trouve des campagnes abandonnées et un peuple qui finalement comprend pas très bien ce qui se passe. Je parle vraiment de la zone du front. Le front a bougé, donc un jour on était au sud, le lendemain on est au nord, ou l'inverse. Voilà, donc c'est assez ambigu ce qu'on trouve sur le terrain en soi.
On peut rappeler qu'au départ, il s'agissait d'un conflit tribal et confessionnel interne, donc à ce jeune pays créé en 1990. C'est l'effondrement du mur de Berlin, la réunification du Yémen. Les bilans qui sont donnés, quelques 10 000 morts, donc depuis 4 ans, le conflit est entré dans sa 5e année. 10 000 morts, en majorité des civils, et plus de 56 000 blessés. Bon, ce sont des chiffres qui reposent sur...
Pendant très longtemps, on est resté sur 4 000 morts. Bon, 4 000 morts. Puis d'un seul coup, on a sauté à 6 000 morts. Et puis maintenant, on ressaute à 10 000 morts. Je sais pas qui compte. On est dans une situation qui est... Est-ce que ce sont des morts civiles, des morts militaires? Je pense qu'on n'en est pas à un moment de décompte. On en a à un moment de panique de la humanitaire et d'un problème de conflit international, enfin, qui s'est internationalisé.
Alors, panique humanitaire, c'est vrai que l'ONU parle de la pire crise humanitaire au monde aujourd'hui. François Frison-Roche, j'en reviens à la question de l'ONU. Alors, on peut parler de l'émissaire onusien sur place, Martin Griffiths, qui est donc l'envoyé spécial de l'ONU, qui se trouve un peu pieds et mains liés avec une résolution qui est assez ancienne de l'ONU, la résolution 2216, qui a été votée, alors je ne sais plus si c'est en avril 2015 ou 2016.
Non, 2015.
Voilà. Et cette résolution, elle déléguait peu ou prou tout pouvoir à Riyad pour régler la crise yéménite. Vous parlez du rôle néfaste de l'ONU, qui donc a amené à une régionalisation du conflit. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer
là-dessus ? L'histoire est longue, à la fois de l'implication de l'ONU, des erreurs commises par le premier représentant de l'ONU sur place, qui était là encore un Britannique, et qui a manifestement pas su gérer... Ce début de crise inter-yéménite, car au départ ce n'était qu'un problème inter-yéménite, yéméno-yéménite comme je dis, et qui s'est internationalisé d'une certaine manière parce que les glissements qui pouvaient, les dérapages qui pouvaient se faire au fur et à mesure commençaient à gêner l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui s'est trouvée aussi à un moment clé de son histoire, puisque le vieux roi Abdallah, plus, disons, porté vers la négociation, est mort. Il a été remplacé par le roi Salman, l'actuel roi Salman, qui a donné à son fils le pouvoir de pouvoir gérer ce problème. Il a voulu montrer ses muscles, il a voulu montrer sa force, il a voulu s'imposer en commençant une guerre au Yémen qui devait durer quelques semaines. Et maintenant, à 3 mois près, on va atteindre les 4 ans de guerre.
Donc voilà, c'est un conflit qui va certainement obliger l'ONU à certainement se reprendre, du moins il faut l'espérer. Je ne sais pas si Monsieur Martin Griffiths sera à même d'aller là où il veut aller, les objectifs que vous indiquiez tout à l'heure, qui sont de toute façon totalement déconnectés de la réalité.
Alors, qu'est-ce qui peut advenir de cette résolution 22-16? J'en reviens à elle, pardonnez-moi, mais parce que c'est important. Vous l'avez dit, c'est une résolution qui est très exigeante pour les rebelles houthistes qui se voient imposer de se retirer de la capitale Sanaa, de désarmer, avant même de négocier un partage du pouvoir, d'où peut-être l'attaque de jeudi dernier avec ce drone. En tout cas, ça revient à demander à la première force militaire du pays de disparaître purement et simplement. Comment sortir de cette impasse ?
Eh bien, il faudrait que l'ONU se penche véritablement sur la question yéménite, parce qu'il faut dire que quand même l'ONU, j'ouvre une parenthèse, s'est beaucoup consacrée à des conflits au Moyen-Orient différents, beaucoup plus importants au niveau de l'ONU, c'est-à-dire l'Irak, la Syrie, le Liban, enfin cette zone particulière. Le Yémen, ma foi, c'était yéméno-yéménite. On donnait un peu carte blanche à l'Arabie Saoudite en se disant « elle va régler le problème ». Bon, maintenant, au bout de 4 ans, on s'aperçoit que les choses ne sont pas passées de cette manière-là. Il va bien falloir revenir un petit peu sur ce que l'ONU réclame, parce que la 22-16, elle reste plus ou moins encore d'actualité. On ne peut pas demander, mais c'est ce qu'exige toujours le président Hadi ou l'Arabie Saoudite, que les Houthis... Passez-moi l'expression, mais baissent leurs pantalons, c'est-à-dire se retirent sur leur zone nord à Saada et abandonnent leur armement, alors qu'ils tiennent depuis 4 ans le pays et qu'ils montrent que ces rebelles qui ne sont pas particulièrement organisés sur le plan diplomatique, politique, militaire, ils arrivent à tenir quand même la moitié du pays. Le Yémen utile, le Yémen peuplé, le Yémen qui compte. Parce que c'est là aussi, on n'en parle pas, où il y a les réserves de gaz et de pétrole. Donc vous voyez que les Houthis, on veut les déconsidérer, on ne veut pas les prendre en considération. Il va bien falloir les prendre en considération maintenant.
Alors, prendre les Houthis en considération, vous parliez de ces rebelles qui occupent des parties importantes du Yémen. On peut rappeler qu'ils sont soutenus par l'Iran. Ce soutien de l'Iran, François Fizeran, je vous vois faire la moue, c'est un soutien opportuniste de la part de Téhéran. Quand les Houthis ont commencé de se rebeller, les liens avec l'Iran étaient totalement absents, ou je me trompe ?
Non, ils appartiennent à la mouvance chiite. Donc, évidemment que...
C'est une mouvance minoritaire au Yémen.
Voilà, ce sont les Haïdites. Donc, les Haïdites ne reconnaissent que 5 imams après Mahomet. Les Iraniens considèrent 12. Donc, vous voyez, il y a des différences dogmatiques très importantes. D'un côté, les Yéménites sont aussi des Arabes, alors que les Iraniens, ce sont des Perses. Donc, vous voyez qu'il y a aussi des différences culturelles. Bref, les Iraniens ont estimé qu'il y avait là un piège à tendre à l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est tombée dedans et les Iraniens aident peut-être politiquement, ont aidé financièrement, ont peut-être fait parvenir des armes. Mais on est loin de la propagande auquel on a assisté de la part, y compris des pays occidentaux. Je ne citerai pas de nom, ni de pays. Mais enfin, on épousait la propagande de l'Arabie Saoudite et de la coalition. L'Iran considère le Yémen comme une zone périphérique qui lui permet d'attirer, en effet, l'Arabie Saoudite dans un piège, qui permet d'humilier les troupes de la coalition. 4 ans après, l'Arabie Saoudite, le pays le plus riche, qui peut s'acheter tous les armements possibles et imaginables, qui n'arrive pas à venir à bout d'une bande de rebelles, parce que les Houthis, au départ, c'est une bande de rebelles. Donc l'Iran se frotte les mains. Elle a certainement fait parvenir d'une certaine manière un certain nombre de choses aux Houthis. Mais enfin, l'Arabie Saoudite a tout de suite mis en place un blocus des côtes. L'Iran ne pouvait pas faire parvenir les choses par la mer. Si on regarde une carte, l'Iran ne peut pas faire parvenir des choses par voie aérienne parce qu'il faudrait traverser l'espace aérien de l'Arabie Saoudite. Donc c'est absolument impossible. Donc on est dans une fiction. Seulement, tout le monde a repris plus ou moins cette fiction, y compris la presse occidentale. Et donc, on est dans une espèce de fiction en disant que l'Iran soutient les Houthis. Mais l'Iran soutient les Houthis, mais d'une manière radicalement différente que ces milices Hezbollah au Liban, ou que les milices syriennes, ou le gouvernement en Irak.
Alors l'Iran se frotte les mains et l'Iran n'est pas le seul, il y a la Russie aussi. Je voulais juste en dire deux mots à propos là aussi de la résolution 2216 où on a vu, enfin en tout cas beaucoup d'Yéménites pensaient que les Russes opposeraient leur veto. Ils se sont abstenus sur cette résolution qui donnait donc tout pouvoir à Riyad, je le rappelle, on l'a dit précédemment. Tout ça pour dire que peut-être que les Russes étaient contents d'imaginer que les Saoudiens s'enliseraient au Yémen. Guillaume Binet, vous évoquiez tout à l'heure l'idée que les Yéménites ne comprenaient pas cette guerre.
Pour revenir un tout petit peu sur ce qu'on venait de dire, sur le terrain, j'étais en 2015 à Sanaa, j'ai demandé aux gens s'ils étaient chiites, sunnites, enfin, je veux dire, j'ai essayé de comprendre. Ils m'ont dit, on ne sait pas si notre voisin, ou on prie dans les mêmes lieux de prière, les mêmes mosquées, on ne sait pas si notre voisin, il est chiite, sunnite, ce n'était vraiment pas la question.
Une lecture de relations, en tout cas.
Je veux dire, il n'y avait pas du tout ce genre de questions. Parle de terrain, de gens de tous les milieux que j'ai pu rencontrer, et croyez-moi, c'était une des questions que je posais pour essayer de comprendre cette lecture-là qu'on nous imposait, justement.
Oui. Le conflit a été confessionnalisé par la suite, notamment par la coalition, l'Arabie Saoudite, qui a voulu montrer son opposition à l'Iran chiite en disant « les Houthis, c'est vrai, ils appartiennent à la mouvance Houthi, donc soutenus par l'Iran, donc voilà, on essaye de distinguer les sunnites des chiites, et voilà surtout effet d'entraînement auprès de tout le monde arabe sunnite pour essayer de coaliser le monde sunnite qui représente 90% au moins du monde arabe, contre justement ces minoritaires chiites qui sont pour certains même des mécréants. Hein. Point de vue sunnite, voilà, ce sont des mécréants. Donc, avec tout ce que cela veut dire, c'est-à-dire les mécréants.
Sur le terrain, ils sont à hauteur de 40% quand même, les minoritaires, non
35-40%, voilà, ça
donc
dépend des comptes.
C'est pas une si petite minorité.
N'est pas une toute petite minorité. Voilà.
Donc, les Yéménites qui ne comprennent pas ce qui leur arrive et les tenants et les aboutissants de cette guerre, c'est ce que vous disiez précédemment, Guillaume Binet.
En tout cas, oui, sur le terrain, ils ne comprennent pas l'ampleur que la guerre a pu prendre quand, pour eux, les conflits nord-sud sont historiques. Mmh. Mais là, ça a vraiment pris une ampleur incroyable. D'autant plus qu'ils ont leurs propres conflits tribaux, ils ont déjà énormément de problèmes locaux. Donc tout ça, ça se greffe et ça se mélange là-dessus. Si on prend un exemple sur cette offensive de la mer Rouge dont on a parlé, qui s'est arrêtée à Hodeïda, on a quand même un général d'armée qui avait rejoint les Houthis, qui était le neveu du président Salé, qui a changé de bord au moment où son oncle s'est fait assassiner, et qui aujourd'hui combat aux côtés des Émiratis sur la mer Rouge. Il ne faut pas oublier qu'il y a des gens sur place. Je veux dire, il y a énormément de conflits qui existaient, qui n'étaient pas aussi meurtriers, et en tout cas qui auraient pu avoir des solutions beaucoup plus rapides que ce que
une situation, en tout cas, c'est ce que je comprends, interne au pays, qui est extraordinairement mouvante. On peut peut-être dire quelques mots, François Vizorange, sur la présence d'Al-Qaïda, notamment au Yémen.
Oui, Al-Qaïda est présent au Yémen depuis une dizaine, au moins, ou une quinzaine d'années, et quand même les États-Unis, qui ont fait d'Al-Qaïda l'ennemi principal, depuis 10-15 ans, n'arrêtent pas d'envoyer des drones et de tuer les leaders d'Al-Qaïda. Il n'empêche que dans un pays failli, où vous pouvez proposer à n'importe quel Yéménite une Kalachnikov et $100 par mois, vous avez n'importe qui va devenir combattant d'Al-Qaïda. Surtout que quand même, au bout d'un certain temps, ils se disent qu'est-ce qui nous envoie des bombes par des avions américains, des bombes de fabrication américaine ou britannique. Bon, ben, vous avez beaucoup de gens qui se lèvent et donc Al-Qaïda est un phénomène qui va certainement rester au Yémen. Al-Qaïda fera tout pour empêcher les négociations de paix car ce n'est que dans le chaos qu'Al-Qaïda peut s'enraciner et se renforcer. Donc c'est un ennemi qu'il ne faut pas négliger, mais c'est aussi un ennemi qui n'est pas aussi considérable qu'on pourrait le dire. Et puis, il y a eu des effets d'alliance très particuliers, parce que Al-Qaïda, ce sont des sunnites, et que quand on leur disait, finalement, on va vous payer, et puis au lieu de nous combattre, vous allez combattre les Houthis, bien, vous voyez des forces comme l'Arabie Saoudite ou les Émirats payer des forces d'Al-Qaïda pour aller se battre contre les Houthis.
Al-Qaïda, dans la péninsule arabique, qui, on peut le rappeler, avait revendiqué l'attentat contre Charlie Hebdo en janvier 2015 à Paris. Géopolitique, nous retrouvons nos invités Guillaume Binet et François Frison-Ranche après le journal. À tout de suite.
19h30 à Kinshasa et Paris, 18h30 en temps universel. Merci d'écouter RFI.
Afrique Soir sur RFI.
Hugo Lanoé.
Bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité africaine, la République démocratique du Congo et la proclamation cette nuit par la CENI des résultats provisoires des élections législatives. Dans la foulée, le FCC, la plateforme des partis pro-Joseph Kabila, revendique la majorité absolue. Vous l'entendrez dans un instant. De son côté, la coalition CASH ne serait créditée que de quelques dizaines de sièges malgré la victoire annoncée de son candidat à la présidentielle, Félix Tshisekedi. L'alliance d'opposition, la Mouka, elle, serait à la traîne. Comme promis, son chef de file, Martin Fayoulou, a déposé aujourd'hui un recours devant la Cour constitutionnelle. Dans ce journal également, nous reviendrons sur la nomination par Ali Bongo d'un nouveau Premier ministre au Gabon, Julien Kogé Bekele, le nouveau chef du gouvernement gabonais, s'est envolé au Maroc où le président poursuit sa convalescence. Et malgré un report de 24 heures en République démocratique du Congo, la CENI a proclamé la nuit dernière les résultats provisoires du scrutin législatif qui s'est tenu en même temps que les élections présidentielles et provinciales du 30 décembre. L'instance électorale a donc listé les noms des 485 députés élus sur les 500 que comptera la future assemblée. Les 15 sièges restants seront issus des circonscriptions dans lesquelles la CENI avait décidé de reporter les élections pour des raisons, je vous le rappelle, sécuritaires. Sécuritaire et sanitaire. Alors que faut-il retenir de cette proclamation des résultats? Quel sera le visage de la future assemblée congolaise? Élément de réponse avec Sonia Rollet.
Avec près de 350 députés revendiqués, c'est presque aussi bien qu'en 2011 pour la coalition au pouvoir. Mais c'est extrêmement difficile de faire la filiation de tous les regroupements politiques et les candidats. C'est l'une des particularités de l'ère Kabila. Le parti s'efface derrière des regroupements reconfigurables à souhait après les élections. C'est ce qui explique que le décompte soit difficile à faire. Dans le détail, le PPRD, le parti présidentiel lui-même, devrait perdre quelques sièges par rapport aux précédentes élections. C'est donc grâce à ses alliés que le FCC revendique aujourd'hui la majorité absolue. Évidemment, dans les rangs de l'opposition, de la société civile, comme des observateurs, on s'étonne de ce score très élevé. La coalition, qui des trois favoris détient le moins de voix à la présidentielle, 4 millions pour son candidat Emmanuel Ramazani Shadary, raflerait plus de 70% des sièges à l'Assemblée, quand les coalitions de l'ancienne opposition parlementaire, CASH et la Mouka, se retrouvent largement minoritaires, moins de 150 députés en ayant recueilli plus de 70% des suffrages à la présidentielle. Selon le premier décompte de CASH, la coalition de Félix Tshisekedi a moins d'une cinquantaine de députés, avec 31 pour l'UDPS et 18 pour l'UNC allié de Vital Kamerhe. La coalition La Mouka, qui revendique 61% des voix à la présidentielle pour Martin Fayoulou, pourrait devenir la deuxième force politique à l'Assemblée, tout en totalisant moins d'une centaine de sièges.
Une précision signée Sonia Rollet. Alors, dans la foulée de l'annonce de ces résultats provisoires, le FCC, le Front commun pour le Congo, qui rassemble les partis pro-Joseph Kabila, a donc revendiqué, on vient de l'entendre, près de 350 députés contre 50 pour la coalition d'opposition CASH du candidat Félix Tshisekedi, donné vainqueur de la présidentielle par la CENI. Écoutons Kodjo Dukuma, il est l'un des porte-parole du FCC.
Nous pouvons revendiquer la majorité absolue au niveau de l'Assemblée nationale avec le décompte des députés nationaux élus du FCC. Cela augure une période de grande tractation. Nous avons deux hypothèses, soit une cohabitation, soit une coalition en fonction d'un grand regroupement qui permettrait d'avoir d'autres personnalités venant des bords différents.
Qu'est-ce que ça dit pour vous de la place qu'aura votre coalition dans la gestion du pays?
Mais la place est confortable. Vous avez d'abord le contrôle des différentes assemblées provinciales, où le FCC est majoritaire dans plus de 22 provinces sur les 26. Cela augure un Sénat qui sera en majorité formé des sénateurs du FCC. Cela augure d'autre part la formation d'un gouvernement dont le Premier ministre sera issu du FCC. Et donc le chapeau du régime a pu nous être enlevé, mais la tête de cet exécutif qui est bicéphale reste quand même celle du FCC.
Et l'un des porte-parole du FCC, Kodjo Dukuma, joint par Florence Maurice. De son côté, la Mouka, l'autre coalition d'opposition du candidat malheureux Martin Fayoulou, donné en seconde position de la présidentielle par la CENI, eh bien la Mouka conteste vigoureusement les résultats annoncés. C'est d'ailleurs aujourd'hui que Martin Fayoulou a déposé son recours devant la Cour constitutionnelle. Notre correspondant à Kinshasa, Kamanda Wakamanda Muzembe, a suivi l'événement pour RFI.
Périmètre quadrillé depuis les petites heures du matin par des éléments de sécurité habillés en tenue de la police nationale, aucun rassemblement de foule n'a été autorisé. Le général Silvano Kasongo Kitenge, numéro 1 de la police de Kinshasa, effectue lui-même des rondes tout autour de la cour constitutionnelle pour se rendre compte du respect des instructions. Alors arrive Martin Fayoulou, accompagné de son épouse. Première phrase de ce candidat contestataire à sa descente du véhicule: ce n'est pas question de confiance, mais la procédure ultime, c'est que le peuple veut sa victoire, répond Martin Fayoulou à la question d'un journaliste qui voulait savoir s'il avait confiance en la Cour constitutionnelle pour l'aboutissement de sa démarche. À la sortie du greffe, l'homme est encore plus intransigeant. On ne peut pas se mettre dans une officine pour commencer à fabriquer des chiffres pour que demain Kabila récupère le pouvoir, c'est inadmissible, explique encore Martin Fayoulou après avoir rempli les formalités de dépôt de sa requête en contestation des résultats publiés par la CENI pour la présidentielle. Kamanda ou à Kamanda Muzembe, Kinshasa, RFI.
Martin Fayoulou a par ailleurs dénoncé aujourd'hui une incursion de militaires de la garde républicaine dans l'hôtel où il réside. D'après l'opposant congolais, le groupe armé aurait menacé les personnes présentes dans l'établissement avant de ressortir. De son côté, le général Silvano Kasongo Kitenge, commissaire provincial de la police nationale pour Kinshasa, dément tout encerclement de la résidence de Martin Fayoulou. Les forces de l'ordre auraient dispersé la foule massée devant l'hôtel situé non loin d'une résidence de Joseph Kabila. Il est 19h36 à Libreville, à l'écoute d'Afrique Soir sur RFI. Les Gabonais se sont réveillés aujourd'hui avec un nouveau Premier ministre. Il s'agit de Julien Kogebe-Kale, désigné hier dans la foulée de la première réunion de la nouvelle Assemblée nationale issue des législatives d'octobre dernier. À moins de 60 ans, Julien Kogebe-Kale a multiplié les portefeuilles ministériels dans les gouvernements de Bongo, père et fils, notamment en charge du travail ou encore du pétrole. L'annonce de sa nomination a été faite de manière inhabituelle par vidéo. Correspondance sur place signée Yves-Laurent Goma.
29 secondes, c'est la durée de la vidéo qui a annoncé la nomination de Julien Kogebe-Kale aux fonctions de Premier ministre. La même vidéo annonçait que son prédécesseur Emmanuel Issoze-Ngondé devient médiateur de la République, une fonction sans envergure. Les deux décrets présidentiels ont été lus par le secrétaire général de la présidence de la République, Jean-Yves Dil, visiblement depuis le Maroc. Très peu de médias ont exploité ces informations car diffusées tard dans la nuit. Selon ses proches, le nouveau Premier ministre a aussitôt pris l'avion pour Rabat au Maroc. Il serait actuellement en concertation avec le président Ali Bongo pour composer la nouvelle équipe gouvernementale. Plusieurs sources soutiennent qu'Ali Bongo va suspendre dans quelques heures sa convalescence et sa rééducation au Maroc pour revenir au pays afin de recevoir le serment de son nouveau gouvernement comme prévu par la Constitution. Yves-Laurent Goma, Libreville. RFI.
Reprendre la localité de Bambari, telle est depuis jeudi l'objectif des unités de la force onusienne déployée en Centrafrique. La MINUSCA a lancé une opération au sol pour récupérer cette ville du centre du pays en proie à des attaques d'un groupe rebelle, l'UPC. L'opération a permis la destruction de matériel létal et le démantèlement de barricades, opération qui a bénéficié du soutien aérien de la France. Hier, deux Mirage 2000 ont survolé à très basse altitude Bambari. Le point sur la situation avec Pierre Firsion.
Aucune détonation, aucun échange de tirs n'a été entendu ce samedi. Abel Machipata, l'ancien maire de la ville, parle d'une certaine accalmie, même si la tension est encore palpable. Peu de circulation dans les rues de la ville, les magasins sont restés fermés, le marché n'a pas fonctionné. Bambari est donc à l'arrêt, après deux jours de combat. Jeudi, l'UPC et ses alliés avaient lancé diverses attaques dans la ville. La MINUSCA a alors riposté en lançant une opération au sol, baptisée Bambari sans groupe armé. Opération qui a permis, selon la mission de l'ONU en Centrafrique, la destruction de moyens létaux et le démantèlement de barricades contrôlées par l'UPC. De nouveaux combats ont eu lieu vendredi. À la demande de la MINUSCA, la France est intervenue en appui. En début de matinée vendredi, deux Mirage 2000 en provenance de N'Djamena ont survolé la zone à très basse altitude et ce à trois ou quatre reprises. Objectif, faire fuir les rebelles. Depuis hier soir, les combats ont cessé. Des combats qui, selon une source humanitaire, auraient fait depuis jeudi 34 blessés et un mort.
Le président centrafricain devait se rendre jeudi et vendredi à Bambari pour célébrer la journée mondiale de l'alimentation. Faustin Archange Touadéra a annoncé mercredi des pourparlers entre le pouvoir et les groupes rebelles. Des tractations attendues le 24 janvier à Khartoum, capitale soudanaise. Khartoum où il est maintenant 20h40, une heure de moins, ici à Paris à l'écoute des RFI. Prochaine édition d'Afrique Soir, ce sera dans moins d'une heure à 20h30, heure de Paris.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Yémen, quand la guerre finira-t-elle? Nous retrouvons nos invités François Frison Roche, chercheur au CNRS et ancien directeur du projet Aide à la transition démocratique au Yémen au sein de l'ambassade de France, et Guillaume Binet, photoreporter et cofondateur de l'agence de photographes Myop. Guillaume Binet, les journalistes étrangers, reporters de guerre n'ont accédé au terrain que de façon assez exceptionnelle et dans des conditions souvent extrêmement difficiles, devant choisir entre attendre un visa qui n'arrivait jamais ou qui mettait très longtemps à arriver, ou entrer illégalement en traversant la mer. Alors on a beaucoup dit que le conflit au Yémen était un conflit qui était resté très largement ignoré. Il y a un aspect des choses qui interroge, c'est le fait que les journalistes yéménites ont été très peu sollicités par la presse occidentale dans ce conflit.
En effet, je pense que pour comprendre les conflits, c'est vrai que les premiers sollicités vont être les journalistes que les rédactions connaissent. Peut-être parce qu'il y a un même langage, ou il y a une même déontologie première. Ensuite, il faut un peu de temps pour essayer de comprendre la situation et éventuellement, de faire appel à des journalistes locaux. Je pense que le problème du Yémen, c'est que c'était une situation extrêmement complexe dès le début. Mmh. C'est que moi, j'y suis allé en 2015, je suis revenu, j'étais pendant le siège d'Aden, ça me bombardait dans tous les sens, je pensais avoir vraiment fait un super boulot, et j'arrivais dans les rédactions, et finalement, il fallait que je réexplique tout le Yémen depuis 2004, voire même avant de pouvoir comprendre un tout petit peu ce qui pouvait se jouer à ce moment-là. Donc, j'ai dû monter avec Libé, France Inter, un gros dossier pour réexpliquer toute la situation. Finalement, pour nos confrères journalistes, pour donner les clés aux gens de comprendre cette histoire nord-sud, sunnite, chiite, etc.
Est-ce que je pourrais juste rajouter quelque chose? C'est que le Yémen, pour la presse française, c'est terra incognita.
Il y a que les grands voyageurs qui connaissaient le Yémen. On ne va pas parler de Kessel.
Voilà, de Rimbaud, etc., etc. Non, ce qu'il y a, c'est que c'est une zone anglo-saxonne. Et si vous regardez à l'époque, 2015-2016, vous pouviez voir un certain nombre de choses à la BBC par des journalistes britanniques qui avaient leurs correspondants. La presse française n'avait pas les mêmes contacts. Donc, on ne parlait pas du Yémen parce qu'il y avait le terrain syrien, il y avait le Sahel, il y avait quantité de terrains beaucoup plus importants que le Yémen.
Et parlons des réfugiés. Le Yémen est enclavé. Enfin, il y a la mer d'un côté, l'Afrique, c'est la corne de l'Afrique dont on va peut-être parler. On ne peut pas dire que d'aller se réfugier en Somalie, ce soit la panacée. Au nord, ils ne pouvaient pas fuir parce que c'est l'Arabie saoudite. Donc, on se retrouve sur un peuple qui n'a pas pu fuir les combats et finalement pas pu porter la parole vers l'Europe, notamment, si on parle de nous, bien évidemment.
Alors, on va parler des puissances régionales. François Frison-Roche, on l'a déjà évoqué un peu dans la première partie. On voit donc cette coalition s'opposer aux rebelles houthistes au Yémen, coalition menée par l'Arabie saoudite. Il y a un pays qui est partie prenante dans ce conflit et dont on parle beaucoup moins que de l'Arabie saoudite, ce sont les Émirats arabes unis. Est-ce qu'il y a une explication à cela ?
C'est un pays qui a manifestement de grandes ambitions régionales et qui a déjà fait une base aéronavale en Érythrée, donc face à Hodeïda et pour garder le détroit de Bab-el-Mandeb. Ils ont repris une ancienne base soviétique dans le Somaliland. Ils sont en train de construire un port à Bosaso, dans pointe de la Corne de l'Afrique. Ils ont manifestement pris en main Mukalla sur la côte yéménite. Voilà un pays, les Émirats Arabes Unis, qui veulent jouer un rôle de gardien des deux détroits, en quelque sorte. Évidemment, le détroit d'Ormuz, parce qu'ils sont en première ligne, mais aussi le détroit de Bab-el-Mandeb, et ainsi peser sur l'échiquier international. Alors, c'est un petit pays, immensément riche, qui a de grandes ambitions, qui a une armée bien formée, qui a manifestement des capacités, les meilleures capacités de la région. Maintenant, c'est un pays qui se cache un petit peu derrière l'Arabie Saoudite, car l'Arabie Saoudite veut rester le pays pilier de la péninsule arabique. Donc, finalement, ils y ont trouvé que des intérêts. Ils n'apparaissent pas directement, puisqu'ils font partie de la coalition, même si c'est certainement à jeu égal avec l'Arabie Saoudite. Et puis, ça leur permet d'avancer leur pion, parce que leur ambition, c'est de, je vous dis, maîtriser la sécurité dans cette zone du golfe d'Aden et du détroit de Bab el-Mandeb.
Alors, ce détroit de Bab el-Mandeb, on peut juste rappeler que c'est par ce détroit que transite 30 à 40% du commerce maritime mondial. Ça aussi, c'est important de le souligner. Cette alliance au Yémen entre l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, est-ce qu'elle a vocation à durer indéfiniment, François Frizenbroch, ou est-ce qu'on peut percevoir déjà quel pourra être le point de rupture?
Il y a certainement des choses qu'on va découvrir d'ici quelques mois, si tant est que M. Martin Griffiths arrive à pousser plus loin les négociations.
L'émissaire de l'ONU.
C'est parce que, justement, les Émirats sont intéressés uniquement par la partie sud du Yémen. Ce sont les côtes. C'est une zone, une région assez peu peuplée. Je rappelle qu'il y a environ 20 à 22 millions d'habitants au nord Yémen, sous contrôle Houthi. Le sud, alors que géographiquement, c'est la zone la plus importante, n'a que 5 à 8 millions d'habitants. Et puis, c'est beaucoup plus désertique. Il n'y a que véritablement comme intérêt géostratégique que les côtes et le port, notamment de Moukalla, avec celui d'Aden. Les Émirats se contenteraient parfaitement d'un Yémen du Sud indépendant. Mmh. Ils ont commencé d'ailleurs. Ils ont complètement phagocyté le Conseil de transition du Sud et ils ont instauré dans les différentes régions des milices qu'ils arment, qu'ils entraînent pour que le moment venu, ils puissent maîtriser cette zone. Donc, dans quelques mois, on va voir que la fiction d'un Yémen uni va voler en éclats. Le problème, c'est que si le Yémen se sépare en deux, que le Yémen du Sud soit sous contrôle, disons, des Émirats, ça voudra dire que le Yémen du Nord, le plus peuplé, avec cette minorité de Houthis, eh bien, ce sont eux qui seront en première ligne devant l'Arabie Saoudite. Et peut-être que l'Arabie Saoudite n'a pas envie d'avoir un Yémen divisé. Et là, on va certainement voir dans quelques mois des points de friction entre l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Il y a déjà eu des problèmes. Quand les Émirats ont occupé en quelque sorte l'île de Socotra, il a fallu que l'Arabie Saoudite intervienne et fasse partir les troupes émiraties de Socotra. Quand il y a eu la manipulation de milices autour d'Aden, pour la protection d'Aden par les forces émiraties, là encore, il a fallu que l'Arabie Saoudite intervienne, parce que le président Hadi, qui s'est réfugié à Riyad, a dit « mais le Yémen du Sud est sous occupation émiratie ». Il est allé jusqu'à dire cela. Alors ensuite, il y a eu un voyage du président Hadi aux Émirats Arabes Unis et que sans doute le chèque qui a été fait a été conséquent et que le président Hadi a retiré plus ou moins ses propos. Mais on sent poindre, dans quelques mois, des zones de friction, et je ne suis pas sûr que l'ONU et son représentant sur place seront en mesure de faire en sorte que ces ambitions contradictoires entre les deux principaux membres de la coalition se résolve avec, évidemment, la paix au Yémen. Mmh. Je pense, malheureusement, que la paix au Yémen n'est pas prête d'arriver.
Guillaume Bina.
Je redescends sur le terrain de la côte ouest. Juste pour aller dans votre sens, sur le terrain, il y a aussi des combattants yéménites, beaucoup de combattants yéménites, qui sont dans des rangées en armée, qui aujourd'hui combattent ensemble, mais qui sont dès que ce sera un peu stabilisé, ils vont commencer à se battre. Il y a la Tiama résistance qui viennent de la côte, qui ont on va pas dire des milices, une armée qui aujourd'hui combat et qui combat pour leur terrain. Il y a des salafistes. Sur le terrain, ils vont pas se réorganiser si facilement sous prétexte que l'ONU aura dit on va faire les choses de cette manière-là.
Il va bien falloir qu'il y ait une direction. Et là, je crois que le problème va se poser relativement rapidement sur les négociations préparées par l'ONU. Un Yémen unifié d'ailleurs ou non? Et puis qui? Parce que c'est intéressant de voir que le fils d'Ali Abdallah Saleh, qui avait été, pour être mis à l'écart, envoyé comme ambassadeur à Abu Dhabi, est soigneusement gardé au chaud à Abu Dhabi. Mmh. Le neveu, qui était chef des renseignements yéménites, donc un homme hyper puissant, est celui qui, dans la Tirama, est en train d'avoir une armée pour allant vers Hodeïda. Donc on sent qu'il y a par derrière, notamment les Émiratis, qui aimeraient bien finalement voir le fils ou le neveu d'Ali Abdallah Saleh revenir et reprendre ce pays, parce que c'est un pays qui aura beaucoup de mal à atteindre un régime démocratique tel qu'on l'entend, nous, en Occident. Sinon, eh bien, on vise à l'éclatement et on vise au conflit perpétuel au Yémen. Là, on verra aussi si l'ONU est capable d'agir ou non. Dire que on tiendra les côtes, on garde la sécurité de Bab el-Mandeb, et puis à l'intérieur, ils se taperont dessus. Ça n'est pas vraiment un défi, notamment pour l'Occident, puisque, comme vous indiquiez tout à l'heure, les Yéménites, ils sont dans une nasse. Ils ne peuvent pas s'enfuir. Autant on voit en France, sous les ponts de Paris, vous voyez des Érythréens, parce que ces malheureux jeunes Érythréens, ils ont 3 ans à 5 ans de service militaire. Des Soudanais qui fuient parce que l'Arabie Saoudite, qui n'est pas capable de se battre sur le terrain au Yémen, recrute des mercenaires du Soudan pour venir se battre. Mais des Yéménites, vous n'en voyez pas sous les ponts de Paris, vous n'en voyez pas à l'OFPRA.
Alors justement, j'aimerais qu'on passe quelques minutes, et après ça on reviendra sur l'Arabie Saoudite et sur les États-Unis dont on n'a pas encore parlé, pour évoquer là tout de suite les répercussions sur la corne de l'Afrique. Vous citiez l'Érythrée, le Soudan, qui avait des liens assez proches avec Téhéran. Tout ça a un petit peu, voire complètement changé.
Tout dépend du montant du chèque.
Tout dépend du montant du chèque. Alors, pour les pays de la Corne de l'Afrique, il va sans dire que ses partenaires émiratis et saoudiens représentent une opportunité de satisfaire leurs propres agendas nationaux et régionaux. Qu'est-ce que l'on peut en dire, François Frison-Roche ?
La Corne de l'Afrique, ça sera certainement une zone sur laquelle on va avoir à se pencher très rapidement. Mmh. Il y a de grands bouleversements. Alors, parfois, c'est en bien. Hein, les accords qu'on a pu voir entre l'Éthiopie et l'Érythrée, c'est tout à fait exceptionnel. Il a fallu qu'il y ait un nouveau premier ministre éthiopien qui décide que, ça y est, le conflit avec l'ancienne province éthiopienne, qui est maintenant l'Érythrée, serait réglé. Mais tout ça fait que des équilibres qui existaient plus ou moins depuis des années sont en train de basculer. Et il faut voir que quand même l'Érythrée était une dictature féroce, que le Soudan est une dictature féroce, son leader est quand même devant le tribunal international pour crimes de guerre, pour ce qu'il a fait justement au Darfour. Mais c'est vrai que l'Arabie Saoudite soutient ces pays et que manifestement elle a dû donner beaucoup plus que l'Iran à une époque. Donc ces pays-là ont évidemment trouvé que l'appui de l'Arabie Saoudite était tout à fait important, même s'il peut y avoir de la mauvaise compréhension, car notamment le Soudan attendait certainement plus. Ils ont eu beaucoup de promesses, mais peu de choses sur le terrain. Bref, il y a en ce moment une espèce de révolution souterraine qui est en train de se passer dans cette zone, et il va certainement y avoir des répercussions. Le conflit yéménite, on pourra dire peut-être à un moment, a été la mèche qui a allumé quelque chose, parce que cela va avoir des répercussions. Je vous dis, quand il y a des mercenaires saoudiens, on parle de 1000 morts soudanais au Yémen. Alors certes, l'Arabie saoudite a indiqué aux familles qu'ils seraient enterrés en terre sainte, l'Arabie saoudite. C'est quand même quelque chose qui pose question.
Guillaume Bina, vous souhaitez rajouter quelque chose, ou on passe à l'Arabie Saoudite, aux États-Unis, l'affaire Khashoggi qui a terriblement terni l'image des dirigeants saoudiens. Est-ce qu'on peut imaginer une sorte de deal, François Frison-Roche, entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite? Il serait demandé à Riyad de quitter le Yémen, moyennant quoi les Américains se satisferaient des explications saoudiennes sur l'assassinat du journaliste.
C'est vrai que l'affaire Khashoggi, donc de ce journaliste qui a été assassiné dans le consulat d'Arabie Saoudite en Turquie, a été l'élément qui a permis de faire ressortir l'affaire yéménite. Les Américains ont eu enfin un levier pour pouvoir peser sur l'Arabie Saoudite dans cette guerre au Yémen. Alors vous savez, les relations internationales, c'est un théâtre cynique. Et donc, si les Américains disent et obtiennent un certain nombre de choses, parce que, comme vous l'indiquiez en introduction, le Congrès américain commence à estimer que ce soutien à l'Arabie Saoudite est parfaitement disproportionné. Si il y a donc cette possibilité de marchandage, parfaitement abject, mais marchandage quand même, eh bien, on pourrait voir l'Arabie Saoudite non pas se retirer, car l'Arabie Saoudite a toujours été présente au Yémen et elle continuera. À une époque, c'était grâce au fonds que l'Arabie Saoudite
donc
pouvait verser à des tribus.
Donc présence moins visible, mais présence tout de même souhaitée
elle
de l'Arabie Saoudite au Yémen.
Évidemment, évidemment. L'Arabie Saoudite s'intéressera toujours au Yémen. Et cela permettra éventuellement, j'allais dire, une sortie un peu par le haut, sans que l'Arabie Saoudite perde la face. Elle a déjà perdu son image internationale. Vous avez quand même des tentatives de restauration d'une certaine image de marque. Rappelez-vous quand on a indiqué dans la presse occidentale que les femmes saoudiennes allaient avoir l'autorisation de conduire. Bon, on a vu que quand même, il y avait des personnes s'occupant des droits de l'homme, notamment des femmes qui ont été ensuite mises en prison parce qu'elles revendiquaient évidemment un petit peu plus. Donc, vous voyez que l'image de marque de l'Arabie Saoudite est quand même très atteinte par ce conflit au Yémen. Si elle pouvait s'en sortir, elle serait certainement contente. Seulement, il y a une dimension régionale, culturelle et cultuelle que l'on ne doit pas ignorer et qui, pour nous occidentaux, est très difficile à percevoir. C'est cette culture de la fierté, cette culture de l'honneur, cette culture de l'affront. L'Arabie Saoudite ne voudra jamais perdre la face avec la guerre au Yémen. Donc, il va falloir trouver une solution qui permette à la fois l'Arabie Saoudite d'avoir une sortie de crise honorable, entre guillemets, tout en prenant en compte les réalités du terrain. Les Houthis tiennent le terrain, il va falloir qu'on négocie enfin avec eux.
Et les Houthis, Guillaume Binet, c'est un soutien fort de la population yéménite. Comment
Les Houthis viennent de l'extrême nord du Yémen, mais les peuples yéménites du nord sont pas tous Houthis. Mais ont leur propre culture, ont une culture du Yémen du Nord. Même s'ils ne sont pas Houthis, même s'ils ne sont pas zaïdistes, ils se revendiqueront culturellement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur ce côté confessionnel qui n'est pas obligatoirement la meilleure lecture. Mmh. Ils se revendiqueront du nord du Yémen, sont des montagnards pour la plupart, pas tous, je le répète, Houthis, pas tous zaïdistes. Et ils se revendiqueront nordistes, montagnards, avant d'être de venir d'Aden, quoi. Ils se reconnaissent pas du tout dans les peuples du sud. C'est comme ça que les Houthis ont pu descendre, mais ils sont descendus. C'est pas tout le nord qui est Houthi contre tout le sud qui le serait pas. Voilà.
La population yéménite très lasse de ces 4 années de guerre, je suppose,
mais
Guillaume Binet.
La population, elle souffre énormément. C'est-à-dire que j'évoquais tout à l'heure les mines, j'évoquais les bombardements, toutes les engins non explosés, j'évoquais une agriculture qui est, dans toutes ces zones de combat, complètement laissée à l'abandon. Écologiquement, c'est un pays qui est jonché de déchets plastiques sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Il faudra nettoyer. Enfin, je veux dire, la population n'en peut plus. La population n'a pas d'eau, la population n'a pas d'essence. Je veux dire, au nord comme au sud. Alors, au sud, un peu plus approvisionné, mais quand on parle de problèmes alimentaires, pas encore de famine, mais de poche, de pré-famine. C'est parce que l'agriculture a été complètement abandonnée.
Le Yémen, déjà importé plus de 90% de son alimentation, déjà avant le conflit. Oui,
oui. En conclusion, François Frison-Roche, vous êtes
pessimiste parce que ce conflit est d'une certaine manière inextricable. Et il est inextricable parce qu'on ne veut pas prendre en compte un certain nombre de réalités, à la fois sur le terrain, à la fois sur le plan régional et à la fois sur le plan international. Là, il va certainement y avoir à faire peut-être un examen de conscience, si tant est que ce soit quelque chose de faisable de nos jours.
Pessimiste aussi, Guillaume Binet.
Moi, je retiens le mot que vous évoquiez tout à l'heure, c'est de cynisme, quand on évoquait l'affaire Khashoggi, et le jour où on considérera que le journalisme passe devant la vente d'armes, je pense qu'on aura déjà fait un grand pas dans notre compréhension d'un conflit. Donc, j'espère rapidement qu'on va s'intéresser aux populations locales et aux gens qui vivent cette guerre avant de penser à nos profits.
Merci à chacun. François Frison-Roche, je rappelle que vous êtes chercheur au CNRS et ancien directeur du projet Aide à la transition démocratique au Yémen au sein de l'ambassade de France, et Guillaume Binet, photoreporter et cofondateur de l'agence de photographes Myop. Géopolitique a été signée Marie-France Chatin, Yaël Coe, Véronique Durand et Nathalie Laporte. Demain, l'émission sera consacrée à l'ONU et à la crise que connaît l'organisation sur fond notamment d'affaiblissement du multilatéralisme. À demain.